quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire du disque. Et d'abord, merci d'avoir réagi nombreux sur notre site et sur notre groupe qui se trouve sur un réseau social bien connu, comme je dis chaque jour, à ce thème en profond renouvellement chez les historiens aujourd'hui. Et c'est de ce renouvellement dont nous allons parler ce matin, car historiennes et historiens s'intéressent depuis peu à ce que ce support du phonographe au MP3, comme le titre un ouvrage récent de Ludovic Tournès, a changé au XXe siècle, tant au niveau des comportements que dans la mondialisation des références culturelles. Car avant le phonographe, qui pouvait écouter et où des musiques de la Nouvelle-Orléans, des chants thaïlandais, que savait-on des musiques composées à Cuba, au Brésil ou encore en Afrique? Le disque a mis à disposition d'abord d'un public discophile et amateur des multitudes de sonorités jusqu'alors demeurées dans l'horaire de production. C'est ce que nous allons découvrir avec Philippe Guimpovis, musicologue et enseignant à l'Université d'Évry, qui a préparé cette semaine avec nous et avec nos quatre invités, Ludovic Tournès, il est professeur d'histoire contemporaine à Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, et auteur récent, il a écrit bien d'autres livres, de « Musique du phonographe au MP3 chez Autrement ». Bruno Séval, des conservateurs à la Bibliothèque nationale de France, en charge de la collection d'enregistrements anciens au sein du département audiovisuel. André Lischke est maître de conférence en musicologie à l'Université d'Évry et auteur de « La musique en Russie depuis 1850 » chez Fayard Miraret. Et Lucie Servin est doctorante en histoire contemporaine à Paris 8 et auteur d'un master sur l'histoire du disque Vogue qui a obtenu le prix Métron en 2010. Bonjour Ludovic Tournès.
Bonjour.
Et vous êtes un de ces pionniers qui a travaillé en tant qu'historien sur cette question du support, les supports donc de la musique. Vous avez travaillé sur le jazz, bien évidemment, pour votre thèse. C'était il y a quelques années, je crois. C'était
il y a maintenant une bonne quinzaine d'années.
quinzaine d'années. Et ensuite, vous vous êtes intéressé donc à ces questions de la façon dont les supports matériels de la musique ont pu permettre justement le transfert culturel, comme on dit aujourd'hui. Vous avez travaillé aussi sur les fondations américaines et sur le rôle qu'elles ont joué quelquefois, ainsi que le gouvernement d'État, le département d'État, dans la promotion justement de ces musiques américaines. Je disais à l'instant même, en ouverture de cette émission, que c'était un sujet relativement neuf pour les historiens, ce sujet justement du support et du disque, du phonographe, du disque ou du MP3, pour pouvoir travailler sur la façon dont circulaient les influences culturelles.
Oui, c'est vrai que bon, l'intérêt pour la musique s'est développé dans le sillage de l'histoire culturelle. Et c'est vrai que jusqu'à une date assez récente, la musique intéressait relativement peu les historiens. En grande partie parce qu'il y avait un aspect, je dirais, d'abord ça passait pour un sujet relativement peu sérieux, donc c'était les historiens peu sérieux qui s'y intéressaient, et puis il y avait aussi un aspect technique qui était que il fallait aussi avoir un certain nombre de connaissances musicales pour pouvoir aborder le sujet de manière relativement pertinente. Donc ces deux facteurs font que, jusqu'à une date assez récente, il y a eu assez peu d'études. Et puis de l'autre côté, chez les musicologues, l'intérêt pour le support enregistré a été aussi est aussi assez récent. Hein. Donc ça, c'est il y a finalement l'histoire du disque est un petit peu dans un trou entre effectivement deux disciplines qui pendant un certain temps ne s'y sont pas préoccupées et puis qui maintenant commencent à s'y intéresser.
Alors je dois avoir de la chance parce que ça fait longtemps que je fréquente Philippe Guimpovis. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc vous êtes musicologue et vous vous intéressez depuis longtemps à la question du support enregistré, même si vous avez travaillé auparavant sur les harmonies, sur les fanfares, mais vous avez évidemment écrit aussi une histoire du jazz et vous avez préparé cette semaine avec nous. Alors, c'est vrai ce que dit Ludovic Tournès, c'était un intérêt relativement récent, musicologue et historien, pour sa question du support enregistré, de la façon dont il n'y a pas simplement les amateurs qui s'y intéressent, mais aujourd'hui, de façon universitaire, on peut s'y intéresser sérieusement.
Oui, comme objet d'étude spécifique, oui. Mais comme objet rencontré en chemin,
ah oui,
ça, évidemment, il y en a eu beaucoup. Parce que quand on s'intéresse au jazz, on se rend compte que le disque a été... C'est par le disque que le culte, que la jazzophilie s'est fabriquée.
Hein,
c'est-à-dire l'écoute collective des enregistrements est fondamentale. Il n'y aurait pas eu l'histoire du jazz sans l'histoire du disque. Quand on s'intéresse aussi à la manière dont les sources ont été recherchées un peu partout, on ne peut que rencontrer le disque. Mais les recherches tout à fait spécifiques sur le disque sont effectivement récentes.
Bruno Sebal, je vous voyais opiner du bonnet à ce que disait Ludovic Tournès au tout début de cette émission. Je rappelle que vous êtes conservateur à la Bibliothèque nationale de France et que vous êtes en charge justement de cette collection d'enregistrements anciens, dont justement ce qui vient de cette phonothèque nationale de 1938, créée en 1938 et qui a ramassé comme ça au fil du temps de très nombreux enregistrements anciens. Alors c'est vrai que vous voyez de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette collection alors qu'auparavant ça n'était pas totalement le cas.
Je pense, comme Ludovic, que ce n'était pas le cas. Pendant longtemps, nous étions sur le site de Richelieu et nous partagions le même bâtiment de rue Louvois avec le département de la musique. Mmh. Et on ne peut pas dire, nous avions des rapports excellents, mais les lecteurs, eux, allaient ou au département de la musique ou au département de l'audiovisuel, mais on voyait 3 ou 4 fois par an, parce qu'il y avait possibilité de descendre avec des partitions, avec mais on en voyait très peu par an. Ça, c'est une certitude.
On était enfermés dans une petite cabine pour écouter un disque.
Et on n'avait pas le droit de copier. Enfin, c'était des dragons.
Et pour avoir travaillé dans une vie antérieure au Conservatoire National Supérieur de Musique, dont j'ai, en tant que discothécaire, les enseignants avaient leur discothèque, mais ils fréquentaient pour venir avec leurs élèves, mais ils ne fréquentaient pas pour eux. Si, 2-3, certains.
Mais... Alors, sur ce thème justement de la mondialisation et de la, en particulier de la connaissance d'autres cultures que la sienne, vous avez un fonds particulièrement riche du côté de la BNF, puisque vous avez récupéré beaucoup de ces enregistrements anciens qui datent de quand à peu près. On s'intéresse à partir de quand à autre chose que la musique de la sphère dans laquelle on vit d'une certaine façon. Est-ce que c'est dès la fin du 19e siècle ou tout début du 20e siècle?
Dès la fin du 19e siècle. Nous sommes issus de 2 institutions successives. Donc la première, les Archives de la Parole, créées en 1911 au sein de l'Université de Paris par Ferdinand Bruneau, qui est un universitaire spécial, éminent linguiste et qui, lui, voulait conserver la mémoire du parler.
Des accents, avec la crainte de la perte des accents.
C'était son grand souci. Et donc, à travers 3 collectes en région, dans les Ardennes, dans le Limousin en 1912 et dans le Berry en 1913, il a réuni un remarquable témoignage de ce parler, incluant même la Briolée au bœuf, qui était l'appel des vaches au retour du champ. Et cette Briolée au bœuf, on la retrouve à travers l'Europe, puisque plus tard, en Roumanie, des enregistrements seront faits. Fin des années 20, oui.
Alors, il faut dire effectivement qu'une des particularités, c'est que ce Ferdinand Bruneau n'est pas le seul, d'une certaine façon, à entreprendre ce genre de choses, puisque les premiers, je crois, ont été...
Les Autrichiens. Les phonogrammes archives de Vienne de 1890.
Ah, j'allais dire les Allemands.
Non, c'est les Autrichiens avec les phonogrammes archives de Vienne.
Mais les Allemands enregistrent en 1900, on va l'écouter tout de suite, l'ensemble théâtral de Bangkok, de passage, je crois, à Berlin à ce moment-là. Enregistrement très rare puisqu'il date du 24 septembre 1900, Bruno Sebald.
La même année, excusez-moi de vous interrompre, mais la même année, le docteur Azoulay réalisera des enregistrements de musique régionale française dans le cadre de l'exposition de l'exposition de 1900.
Mmh. Oui, mais là, la particularité peut-être de ce type d'enregistrement, c'est qu'on est déjà dans l'ethnomusicologie, on pourrait presque dire.
Oui,
c'est-à-dire
qu'on
enregistre
aussi,
pas simplement sur son territoire propre, mais on va enregistrer des gens qui viennent d'autres cultures, en l'occurrence.
Alors, issue de notre propre institution. Donc j'avais parlé de la deuxième, institution qui sont le Musée de la Parole et du Geste, créé en 1928 comme premier directeur Hubert Pernaut. C'est un helléniste. Et dès 1898, Pernaut va réaliser des enregistrements sur l'île de Chios.
Ah oui, donc en Grèce.
Oui, les 15 enregistrements étaient perdus corps et bien de... Pensée, et Pernaut, nous avons une correspondance de Pernaut de 1935 où il demande ce que sont devenus ces enregistrements et on lui dit que tous les cylindres ont été rabotés. Et grâce à la perspicacité et surtout la pugnacité de Pascal Corderex, qui est responsable du service documents sonores, nous avons retrouvé une quarantaine de cylindres à l'Institut de musicologie qui sont ces fameux cylindres de Pernaut.
Donc, de 1898.
Retrouvés en 2010.
Enregistré donc en 1898 sur l'île de Chios, Ludovic Tournay.
Oui, juste pour rebondir sur ce thème, je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de voir que l'essor de ces documents sonores et de ces instituts de patrimonialisation est tout à fait concomitant de la naissance de l'anthropologie, hein, dont finalement l'enregistrement phonographique est un des éléments documentaires importants. Et par exemple, dans les années 1890, alors même que les révoltes indiennes viennent d'être écrasées aux États-Unis, les premiers anthropologues américains vont aller collecter les premiers chants indiens et les enregistrer à ce moment-là.
André Lischke, vous êtes vous-même spécialiste de musique russe et vous avez longtemps travaillé donc, dans une firme de disques qui était le Chant du Monde, qui participait justement dans la deuxième moitié du XXe siècle à la promotion justement de la musique russe.
Oui, c'est vrai que le Chant du Monde et en particulier mon activité au Chant du Monde appartiennent à une époque plus récente que celle qui est évoquée.
Sinon, vous ne seriez pas là.
Je ne serais pas là, effectivement. Ouais. Oui, le Chant du Monde, c'est une longue histoire. C'est une maison qui est née donc, sous le Front Populaire, qui était une maison du Parti communiste. En particulier, elle l'avait pendant longtemps, et je ne sais même pas si elle n'a pas encore maintenant les droits sur l'international. Et puis après la guerre, c'était une des premières entreprises françaises à passer des contrats avec l'URSS et donc à faire connaître en France l'opéra russe, les solistes comme Richter, Oistrakh, Gilels, le théâtre Bolchoï, les compositeurs soviétiques, Prokofiev, Shostakovich, Kabalevski, les chœurs de l'armée rouge. Et par ailleurs aussi, donc il y avait des collections importantes, justement des musiques du monde, comme le nom de l'entreprise l'indique, donc des musiques extra-européennes, du jazz, du flamenco, donc vraiment des collections qui couvraient un petit peu toutes les sortes de musiques classiques et non.
Mais Philippe Gimpovitz, tout de même, il ne faut pas confondre peut-être cette période des pionniers qu'on racontait avec Bruno Sebald de la première moitié du XXe siècle, avec ce qui se passe ensuite dans les années 45, 50, 60, avec la popularisation en particulier du 33 tours et la multiplication des écoutes possibles, parce que peut-être à ce moment-là, la discophilie est-elle plus réduite et touche-t-elle moins de monde en tous les cas
Oui, c'est facile pour moi de dire qu'il y a une période intermédiaire entre 1892 et l'âge non canonique d'André Lischke. Non, mais cette période intermédiaire, ce sont les années 30. C'est dans les années 30 que se développe la discophilie, la phonophilie. Et j'en veux pour preuve au moins deux exemples, deux rubriques qui naissent dans les journaux. Celle d'André Queroy, mon cher André Queroy,
un travail universitaire récemment.
Et Jean-Richard Bloch à Marianne. Mm-hmm. Et Jean-Richard Bloch a une phrase que je ne veux pas citer parce qu'elle est vraiment très très intéressante dans Marianne, où il dit...
Le Marianne des années 30, qui
n'a rien
à voir
le Marianne de Berle, oui. 19e siècle, c'était le siècle, je résume, le siècle de l'instruction obligatoire. Le 20e siècle s'est amorcé comme le siècle de l'image. Et on en vient maintenant à ce qu'il appelle la revanche de l'oreille. Le XXe siècle prépare, dit-il, le triomphe de l'oreille. L'oreille était, aux âges primitifs, un grand moyen de communication humaine et artistique. Elle tend à reprendre cette place avec les machines parlantes, le film sonore et le sans fil. Et donc, c'est le début des collections, effectivement, le début des amateurs de disques, des collectionneurs de disques.
Vous êtes venu, Bruno Sebald, avec un disque de 1917, je crois. C'est un Dixieland, c'est ça ?
C'est le premier enregistrement de jazz réalisé par la firme Victor, qui est en 1917, par une formation blanche, puisque ce ne sera qu'en 1923 que les formations noires commenceront à enregistrer.
Enregistrement de 1917 sur la firme Victor d'un Dixieland, donc original Dixieland. Vous vouliez commenter justement ce disque, Bruno Sebald.
D'abord pour la qualité de l'enregistrement qui est, je trouve, bluffante.
Parce qu'on est avant l'enregistrement électrique, en l'occurrence.
L'enregistrement électrique commence en 1925-27. Et d'ailleurs, la firme Victor, qui est la première à utiliser ce procédé, donc enregistrement électrique signifie amplification par un microphone. Mm-hmm. Donc jusque-là, les instruments et les voix étaient restitués avec un spectre très étroit. Donc... tout ce qui est aigu passe très mal et il faut que ça fasse du bruit. Mmh. Et pour donner un exemple qui est rapporté par Gérald Moore, le grand pianiste accompagnateur de Fischer Dieskau et Elisabeth mmh. Schwarzkopf, il débute en 1921 sa vie au disque. Mmh. Donc, il raconte que quand il va à Hayes chez Gramophone, His Master's Voice, il se trouve dans un local très fermé, en planche, avec juste une petite ouverture pour échanger avec le producteur. Et comme il faut que l'interprète, chanteur, soit la bouche dans le pavillon.
Dans le pavillon,
donc, le pianiste. Il a une place aléatoire, en l'occurrence, en arrière. Donc, la situation est la suivante. Il a ordinairement l'arrière-train de l'interprète face à lui. Et donc, c'est très difficile de suivre. En plus, il faut qu'ils adoptent un rythme effréné parce que la phase de disque ne dure que 3 minutes 30 à 4 minutes selon le format du disque.
Ça fait pas de la très 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 bonne interprétation en tous les cas. Philippe Bienplovitz.
Oui, juste un mot à propos de la firme Victor, pour qui il n'y a pas de disque sans phonographe pour passer les disques. En 1906, la firme Victor avait conçu et popularisé un meuble qui s'appelait le Victoria. Mmh. Très beau nom. Et le Victoria, c'était un meuble acajou, laqué piano, qui était le premier produit de grande consommation qui permettait, enfin de grande consommation pour l'époque, de passer ces disques. Hein. Donc il faut bien imaginer toute la chaîne entre les
fabrications,
entre la fabrication, l'édition, les artistes et toute la somme de savoir que cette industrie a concentré avec elle.
Et puis surtout, on a oublié, Ludovic Tournès, l'immense nouveauté que ça pouvait être d'écouter de la musique chez soi et non pas dans une salle de concert ou au cabaret. Et on est même surpris en vous lisant dans Musique du phonographe ou MP3, en lisant ce texte qui est tiré, je crois, de l'édition musicale vivante de février 1929, qui raconte la venue d'un chanteur de variété américain qui s'appelle Jack Smith. Et voilà ce qu'ils écrivent. Ils écrivent « Jack Smith a maintenant repris son paquebot pour le Nouveau Monde. Vous êtes rentré chez vous et vous avez recherché ces disques les plus séduisants. Et vous êtes aperçu que la machine parlante vous apportait des joies musicales plus subtiles et plus complètes que l'audition directe. Jack Smith est un chanteur délicieux, mais le fantôme de sa voix est 100 fois plus délicieux encore. Dans votre fauteuil, au palace, vous vous êtes trouvé là, à une certaine distance de l'artiste. Le disque, au contraire, vous apporte intact la sonorité ronde et harmonieuse que le microphone avait captée à quelques centimètres de ses lèvres. » Alors aujourd'hui, où on valorise, pour des raisons commerciales, le concert, en disant il faut aller au concert, parce que maintenant, comme les disques ne se vendent plus, et on dit il faut la musique vivante. En fait, on s'aperçoit que la nouveauté dans ces années 20, c'est justement le disque, parce qu'on a une impression de proximité avec le chanteur, avec l'artiste, qu'on n'avait pas auparavant.
Oui, non, ça c'est tout à fait extraordinaire, effectivement, quand on s'intéresse à l'histoire du disque. Et d'ailleurs, ça renvoie à ce que disait Philippe Gomplovitch tout à l'heure à propos de la discophilie. Je crois qu'un des moteurs essentiels de la discophilie, hein, qui explique le fait que des gens aient préféré écouter la musique sur disque plutôt qu'au concert. Et c'est vrai que dans les années 20, on assiste à la naissance de cette nouvelle catégorie sociale de gens qui écoutent la musique chez eux, enfin qui préfèrent l'écouter chez eux. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, dans l'imaginaire d'un amateur, d'un discophile, il se sent plus proche du musicien en l'écoutant par le disque qu'en l'écoutant au concert, tout simplement parce que en l'écoutant par le disque, il a la bouche du musicien près du micro, donc bien plus près de lui que quand il est sur scène. Et finalement, ce sentiment de plus grande proximité avec l'artiste, il est absolument fondateur dans la discophilie.
Alors, on s'aperçoit en vous lisant que dans les années 20 et 30, vous dites que c'est par le disque que le public européen, par exemple, découvre les artistes de la Nouvelle-Orléans, les artistes de Chicago, les artistes de New York, Philippe Gimplowitz.
Oui, c'est à partir de 1926, à partir de 1926-1927, que sur les grands boulevards, on peut écouter, il y a des magasins à disques où l'on peut écouter des disques en provenance des États-Unis, et notamment les premiers disques qui vont être quelques années plus tard, 3 ou 4 années plus tard, spécifiés comme des disques de jazz.
C'est quoi, c'est Armstrong qu'on écoute?
Oui,
déjà,
oui, on n'écoute pas tellement Armstrong, on écoute plutôt Paul Whiteman, on écoute des orchestres de jazz, des orchestres de jazz symphoniques. Mais c'est à partir de cet énorme corpus de disques qui arrive parmi lesquels il n'est pas spécifié ni jazz ni variété, c'est de la variété américaine au fond, c'est une vaste nébuleuse que les puristes des
vont
années
distinguer.
30 que connaît Ludovic Fournès, oui, vont dire ah là il y a du bon jazz, là il y a du vrai jazz, là il y a du jazz hot et il y a du jazz.
Et ils vont inventer l'expression, voilà. Justement.
Il y a des phrases extraordinaires par ailleurs sur l'écoute de ces premiers enregistrements de McCorlan qui raconte l'espèce de choc électrique que représentent ces premières écoutes, parce qu'il faut se mettre.
Mais oui, parce que c'est ce qu'on on a oublié aujourd'hui, effectivement, oui. Cette proximité, cette chanson, on a l'impression qu'on nous parle à nous d'une certaine façon, Bruno Sebald.
Ah oui, de toute façon. Alors, dès l'origine, les répertoires, les maisons de disques sont sorties d'Europe pour aller vers le Moyen-Orient, l'Asie, et toutes les grandes firmes, pour parler de Victor, mais je citerai la Gramophone, qui est une des firmes primitives, avec Berliner. Et Berliner, déjà, il ouvre sa maison de disques en 1894 à Philadelphie. C'est un Allemand installé aux États-Unis. Et Berliner aura, avant la fin du 19e siècle, des répertoires tant en Russie, en France, en Autriche. Il enregistre un cantor, le cantor H, à Vienne en 1899.
Sur ce point, tout de même, est-ce que vous pouvez nous dire, André Lichke, si vous qui êtes un très bon connaisseur de la musique russe et qui avez écrit la musique en Russie depuis 1850, pour cet espace géographique que vous connaissez bien, ça a changé quelque chose que d'être savoir qu'on pouvait d'un seul coup être promu hors des frontières de la Russie et hors d'une petite sphère peut-être d'amateurs de musique russe, donc au tournant du 19e et du 20e siècle. Est-ce que ça change quelque chose de savoir que sa musique peut être jouée, et entendue, propagée, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs?
Ah bah, évidemment, ça change énormément de choses, mais surtout à l'époque soviétique, c'était important à un moment où le pays était totalement fermé, mais où la musique pouvait quand même circuler grâce aux disques et grâce aux quelques interprètes qui étaient autorisés à la faire connaître. Bien sûr, ça a été une politique à la fois très active, mais qui avait surtout, à l'époque soviétique, pour but de glorifier les réalisations de l'URSS dans tous les domaines, en particulier dans le domaine artistique.
Oui, parce qu'on n'est jamais très loin de la politique quand on vous lit Ludovic Tournès, tout de même, parce que vous parlez de la question de l'influence américaine par l'intermédiaire de ces fondations créées par de nombreux milliardaires américains, la façon dont les États-Unis ont fait du soft power, comme on dit aujourd'hui, exporter leurs propres connaissances et leurs propres créations à l'étranger pour pouvoir porter certaines de leurs idées. Mais de l'autre côté, l'URSS fait exactement la même chose. Et il n'y a pas de thèse, là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, pour l'instant, une thèse d'histoire sur la façon dont le soft power soviétique s'est développé par l'intermédiaire de ces travaux-là.
Je dirais que c'était le hard power plutôt que le soft power, en l'occurrence.
Ludovic Tournès.
Oui, tout à fait. Alors, juste avant d'évoquer cette question, je voudrais juste revenir sur un point qui, à mon avis, est très important pour notre sujet d'aujourd'hui. C'est de comprendre que la mondialisation, elle est dès le début dans l'industrie du disque. On a une industrie qui est dès le début mondialisée. Hein, effectivement, Bruno Sebald parlait de la diffusion des disques un petit peu partout. Quand on regarde effectivement des compagnies comme Pathé, mais c'est pas la seule, on s'aperçoit qu'elles ont des filiales en Afrique du Nord, en URSS, enfin, qui n'est pas encore l'URSS, mais en Amérique d'Afrique du Sud. Donc on a une industrie qui, dès le départ, se déploie à l'échelle de l'ensemble du monde, avec évidemment des quantités qui sont beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui, mais une industrie qui est quand même complètement mondialisée. Ça, c'est un point important. Alors, pour revenir effectivement sur cette idée de soft power, hard power, etc., c'est vrai que il y a une dimension volontariste qui est importante dans la mondialisation, notamment quand, après 1945, effectivement, les États prennent en main la politique culturelle, ou en tout cas s'invitent dans la politique culturelle avec des moyens logistiques, financiers extrêmement importants. Il y a l'Union soviétique, il y a évidemment aussi les États-Unis. Alors, d'une certaine façon, ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec le fameux phénomène des V-disques, où finalement l'armée américaine
le fameux phénomène, pour des spécialistes comme vous, oui. C'est quoi les V-disques?
Les V-disques ou disques de la victoire, à partir de 1942-43, l'armée américaine a commencé à produire des disques pour les diffuser auprès des soldats américains. Des disques qui n'étaient pas destinés à la vente, mais qui en fait se sont retrouvés après-guerre sur les...
On a souvent raconté, par exemple, comment des villes de garnison américaines en France ont été précurseurs, Châteauroux, Chaumont, Évreux, Orléans, dans les nouvelles musiques sur le territoire national, parce que justement des gens récupéraient, en particulier dans les poubelles des messes des officiers ou des sous-officiers, récupéraient les disques qui avaient été jetés, parce qu'on envoyait régulièrement des nouveaux contingents de disques, et lorsque les disques étaient passés, on les mettait à la poubelle. Donc là, il y a plein de gens qui les récupéraient, il y avait une sorte de second marché pour pouvoir justement se faire l'oreille à autre chose.
Oui, ça c'est pas seulement le cas en France, partout l'armée américaine était stationnée, hein.
Non, mais je parle du cas français.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un phénomène international. Et effectivement, les V10 sont un premier vecteur de mondialisation de ce point de vue-là.
Bruno Sebald.
Le département de l'audiovisuel a un fonds important.
À la Bibliothèque nationale de France.
Un fonds important de V10 à travers le don de la collection de Charles Delaunay, éminent spécialiste dont je parlerai tout à l'heure.
Répertorié par Anne Legrand.
Ouais. Donc ce fonds a été donné en 1979 par Charles Delaunay, et avec usufruit, donc n'est rentré qu'en 88. Et autre disque aussi lié à... qui était destiné aux émissions de radio qu'avait collecté Charles Delaunay, ce sont des disques de 40 cm qui étaient des programmes préenregistrés et diffusés en Europe, notamment en Allemagne, peu destiné aux
soldats.
Aux soldats, oui.
Oui, alors après, Charles Delaunay, il faut nous le présenter. Vous êtes avec nous, Lucie Servin, vous n'êtes pas encore intervenue, parce qu'on était dans la période qui précédait celle qui vous intéressait. Vous avez fait un master d'histoire et vous êtes en train de faire votre doctorat, votre thèse d'histoire sur le même thème, à savoir les disques Vogue. Et ce Charles Delaunay, eh bien, c'est un personnage central pour justement la propagation d'autres musiques, en particulier musique de jazz en France, puisqu'il a été un des fondateurs du Hot Club avant la guerre. Il a été un des propagateurs avant la guerre de la musique de jazz. Et surtout, après la guerre, il a été un des fondateurs justement de ces fameux disques Vogue sur lesquels vous travaillez. Charles Delaunay, dont j'ai appris en vous lisant, parce que je ne savais pas, parce que je ne connaissais pas bien cette histoire, qu'il était le fils de Robert et Sonia Delaunay, donc les fameux peintres.
Voilà, donc ce qui est intéressant, parce que Vogue est une entreprise qui se crée après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, mais Charles Delaunay est un des précurseurs du jazz, de la diffusion du jazz en France. Et il faut s'imaginer, parce qu'on parle de public, on parle d'arrivée de la musique, mais le jazz arrive dans un milieu quand même assez restreint, qui est un milieu parisien, et qui est un milieu de jeunes et d'esthètes, de collectionneurs, d'un petit groupe de puristes qui commencent à se créer autour de la recherche de ces disques.
Vous dites qu'en 1938, sur 387 membres du Hot Club de France, 80% sont des Parisiens. Donc ça dit bien quelque chose aussi de la différence qu'il pouvait y avoir de réception des musiques sur le territoire, parce qu'il n'y avait pas des clubs de jazz dans toute la France, et en revanche, et pas des tournées de jazz non plus dans toute la France. Mais le disque, lui, pouvait pénétrer plus largement le territoire français.
Exactement. Et parlais de Tim Coppens, qui, un Américain, disait justement que par rapport aux États-Unis, qui pour eux, le jazz, c'était la musique des clubs, c'était la musique qu'on écoutait partout. En France, on a directement étudié le jazz. Mmh. On a directement créé des clubs d'esthètes, et c'est comme ça que va se créer le Hot Club de France. Et c'est comme ça que Delaunay va créer la première discographie, qui va créer aussi la revue Jazzode, dans laquelle on écrit des chroniques sur le jazz, dans laquelle on commence à faire connaître comment on écoute cette musique, et qui va créer, avec la rue de Chaptal, un espèce de vivier autour du jazz, autour duquel aussi il va créer son propre label, le label Swing, qui est une étiquette qui appartient à Pathé Marconi, mais Pathé Marconi, qui était une grosse boîte à l'époque, ne s'intéressait pas vraiment au jazz. Il fallait des spécialistes comme Charles Delaunay, qui étaient des militants en fait, pour faire connaître le jazz, pour créer des labels comme Swing.
Ce qui est intéressant, Philippe Gimplowitz, c'est qu'en fait, quand on s'aperçoit de cette période des années 30, des années 40, et puis du tout début des années 50, avant l'arrivée massive du 33 tours, c'est que les gens, ils font un peu tout. On a l'impression qu'ils sont à la fois musicologues, esthètes, qu'ils vont fonder des clubs parce qu'on va se retrouver ensemble, et puis après, ils vont finir par faire des firmes de disques. C'est le cas d'Eddie Barclay, sur lequel vous avez travaillé avec Séverine Cassard pour le documentaire de mardi. Voilà quelqu'un qui est un musicien, voilà quelqu'un qui est un... et puis qui va monter une firme de disques lui aussi, qui va être concurrente d'ailleurs des disques Vogue. Parce que d'une certaine façon, on n'a peut-être pas de séparation comme aujourd'hui dans des métiers, etc., etc.
Oui, ce sont avant tout des dévots. Hein, ce sont avant tout des esprits militants, quasi religieux, qui considèrent le jazz... Pour qui le jazz est une sainte cause, réellement. Donc, il y a le petit groupe du Haut Club de France dont vous avez parlé dans votre master et dont Ludovic Tournès a parlé dans ses travaux, comme des sociétés savantes. Et il y a un réseau international qui se fait. Effectivement, ce sont tous des gens issus de la bonne bourgeoisie intellectuelle. Je mets Hugues Panassier à part. Hein. Et il y a un réseau international. La collection de disques... C'est intéressant, hein, commence à Princeton. Hein, des premiers étudiants de Princeton commencent à collectionner des disques.
On est quand même dans la Upper Society.
Et puis, il y a une concurrence entre Princeton et Yale. Il y en a qui aiment Duke Ellington et d'autres qui se damneraient pour Bix Beiderbecke. Et il y a des échanges de lettres entre Delaunay, Panassier, Marshall Stearns, John Hammond, hein, très très important. Hein, qui est... Là où vous avez raison, c'est qu'il arrive que certains de ces dévots passe à la production. Oui. Donc c'est le cas de John Hammond, par exemple, aux États-Unis, qui va produire successivement Billie Holiday, Count Basie, Benny Goodman, et plus tard Bob Dylan et Buzz Springsteen. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une... ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est qu'à partir du creuset du jazz, il y a un petit groupe de personnes qui va finalement arriver à irriguer la variété, le rock également aussi.
André Lichke, vous qui êtes spécialiste de la Russie, ce jazz dont on nous raconte depuis le début qu'il est justement le noyau de cette mondialisation culturelle, il pénètre aussi en Russie un petit peu, et puis après ça s'arrête pour des raisons idéologiques.
Oui, c'est-à-dire ça a un tout petit peu pénétré dans les années 20, justement à l'époque de la NEP, où tout ce qui était nouveau, occidental, ce qui paraissait d'avant-garde dans le sens le plus large du terme, était encore favorisé. Et ensuite, il y a un barrage, parce que c'est considéré comme appartenant à une culture bourgeoise décadente, dont l'Occident fait ses choux gras, et donc plutôt nuisible pour le bon peuple soviétique.
Et donc si on exporte, on n'exportera pas de jazz soviétique, mais on exportera à cela, par exemple, par l'intermédiaire des chants du monde, des chants orthodoxes. Alors ne trompons pas nos auditeurs, André Lichke, en leur laissant croire que les disques soviétiques faisaient la promotion du chant orthodoxe. C'est un enregistrement de 1989.
Il y en a eu quelques-uns, oui. Mais il y a eu notamment les Vêpres de Rachmaninov par le chœur Svechnikov. Il y a eu des chants des premières polyphonies du 16e, 17e siècle, qui étaient considérés comme des documents d'archives. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque soviétique, la musique religieuse, elle faisait partie de ce qu'on pourrait appeler la musique psychologie de bibliothèque. C'est-à-dire, c'était réservé à quelques érudits, mais ça n'avait pas beaucoup de diffusion, bien sûr, sur le marché. Et c'est avec la chute du régime soviétique que la religion a commencé à ressortir et qu'on commençait à se développer des ensembles, donc ou mixtes ou des chœurs d'hommes, comme c'est le cas ici, et à explorer vraiment de manière systématique ce répertoire.
Mais on sait, par exemple, que le folklore tenait une grande place, justement, dans les... Dans les idées de l'ethnomusicologie soviétique.
Folklore a toujours une place immense, oui.
Et donc, il a dû y avoir beaucoup de propositions de disques de folklore, justement, qui se sont répandues par l'intermédiaire du Chant du Monde ou d'autres firmes comme
bien
ça
sûr,
dans le monde entier.
Bien sûr, tout ce qui était chant populaire, qui était l'art du peuple, a été exalté. Mais en ce sens, il faut quand même dire que la politique soviétique ne faisait que prolonger quelque chose qui était déjà en place depuis longtemps avant la Révolution, où la société de géographie a vraiment effectué des voyages sur le terrain pour collecter des mélodies d'une manière tout à fait systématique.
Alors, si on passe dans ces années 50 et ces années 60 avec vous, Ludovic Tournès, à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire les États-Unis, et si on s'attache à cette idée que le jazz est quand même un des vecteurs importants de transfert culturel dans ce 20e siècle, vous expliquez dans votre livre Musique du phonographe au MP3, qui est paru chez Autrement, vous expliquez comment le métissage du jazz avec tout un tas d'autres cultures, en particulier les cultures sud-américaines, centra-américaines, Cuba, le Brésil, etc., mais aussi l'Afrique, a été très important pour la promotion, par l'intermédiaire de ces musiques-là, de ces musiques originelles qui ensuite parviendront à des oreilles qui ne les connaissaient pas auparavant, Ludovic Tournès.
Oui, tout à fait. C'est vrai que de ce point de vue-là, on peut dire, disons, en étant un peu caricatural, que le jazz est un peu le laboratoire de la world music, parce qu'il y a effectivement toute une série de syncrétismes qui se font par le biais du jazz, qui sont tout à fait extraordinaires. Et le disque joue un rôle absolument fondamental là-dedans. Il joue un rôle, en fait, à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il est à la fois un laboratoire et il est un amplificateur. Laboratoire parce qu'en fait, on a, au sein du studio d'enregistrement, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, hein, mais qui est un élément fondamental, parce que c'est là que se réalise le disque, dans le studio d'enregistrement, se rencontrent des musiciens qui viennent de toutes origines. Mmh. Et effectivement, donc le disque est le produit de ça. Donc là, il y a cet aspect laboratoire. Et puis, il y a l'aspect amplificateur, puisque, évidemment, le disque, ça circule beaucoup plus facilement que les musiciens. Et il y a tout un tas de phénomènes, finalement. Et on l'a vu à propos du jazz dans les années 20-30, mais on pourrait faire exactement le même raisonnement avec d'autres dans les années 40-50-60. Les disques précèdent les tournées de musiciens. Et c'est par le disque que les gens prennent contact avec toutes ces musiques-là.
Oui, prenons l'exemple des disques Vogue sur lesquels vous avez travaillé, Lucie Servin. Est-ce que c'est la chose que ça correspond à ce que vous avez pu noter, justement, de ces amateurs de jazz du début, donc fondateurs de cette firme de disques jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, qui vont justement devenir des propagateurs alors, de musique de variété, mais aussi de musique plus spécialisée.
Ça participe de deux phénomènes. Il y a d'abord cette constitution d'un réseau de professionnels autour du jazz, autour du studio d'enregistrement, qui fait que aussi ce sont les mêmes acteurs qui vont propager toutes les musiques du monde, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Et il y a aussi un engouement du public pour un disque qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on n'est plus dans les années 30, on n'est plus dans un produit de la upper class, on a quand même une diffusion beaucoup plus profonde, en masse.
Vous parlez d'un tsunami du disque à partir de l'arrivée du
33
tours. Du
micro-sillon, mais même avant, dans la production des 78 tours, il y a une période de reprise de la production.
Et moi, j'étais étonné de lire que, par exemple, Sidney Bechet a vendu en 78 tours 1 million d'exemplaires,
voilà, ce qui
était énorme. En 5 ans. Oui, mais c'est énorme.
Un million
d'exemplaires
c'est
de 78 tours.
C'est le premier tube en France.
Entre 49 et 54, c'est ça, voilà. Pour les oignons.
Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi avec Sidney Bechet, c'est que c'est la première star de Vogue. C'est une star américaine, mais c'est une star qui fait son succès en France.
Mm-hmm. Puisqu'il n'a pas de succès en dehors de la France, visiblement.
Il a un succès plus petit, plus limité aux États-Unis. Et en fait, il fait vraiment son tube en France pour devenir une grande star française et lancer en fait la maison de disque Vogue vers pour... vers le succès.
Et vous expliquez que les mambo, par exemple, de Benny Bennett ou de Jack Harry, sont produits par Vogue, mais parce que il y a un producteur qui vient de Paris Inter, qui s'appelle Serge Goron, et qu'il a déjà, parce qu'il faisait de la radio, il connaissait toutes ces musiques-là, il a produit des disques d'un nouveau genre, enfin, en tout cas, pour le disque Vogue, à ce moment-là, au début des années 60.
Voilà, parce qu'en fait, c'est des passionnés du disque. C'est du passionné de jazz, mais c'est aussi des passionnés du disque. C'est des gens qui travaillent avec les radios, qui sont des acteurs d'emblée de la diffusion de la musique.
Philippe Gimplovis, puis Bruno Sebald.
Oui, juste un mot pour prolonger ce que vous dites. Il y a un goût pour les chanteurs à voix, pour les chanteurs à accent, je veux dire, en France, qui précède tout ça. Et, bon,
qui précède quoi? Qui précède le disque qui précède les années 50?
Oui, qui précède les années 50 et dont le disque va faire sa nourriture. Bon, on parlait de Sidney Bechet, il arrive en 1925 avec Josephine Baker. Et Josephine Baker devient une star. Et une star du disque dans les années 30 avec J'ai deux pays.
J'ai deux amours,
etc. Et alors quand on va plus en amont encore, on s'aperçoit que ce qu'on appelle, alors, le mot est important, les variétés. Mm-hmm. Hein, ce monde des variétés populaires a toujours été un vecteur de mondialisation, mm-hmm, et d'exotisme, en tout cas comme on disait avant. On voit par exemple un des premiers grands succès du disque, c'est Mayol avec la Machiche, musique cubaine. Et quand on remonte encore plus avant même le disque, c'est intéressant parce qu'on on a l'opéra comique, vous voyez, on a la comédie, bon, les Indes galantes de Rameau. Alors évidemment, c'est pas la musique. Non, mais c'est important parce qu'il y a, même si c'est un exotisme de façade, c'est tout de même une aspiration à rencontrer l'autre.
Et là,
qui est très présent. Tout le répertoire d'opéra comique, Gluck, par exemple, est plein de turquerie. Bon, on appelait de turquerie, etc., etc.
Bruno Sebald.
Ben, je ferai un retour en arrière, parce que je vous ai parlé de la première institution, mais la deuxième, qui sont les archives, qui sont le Musée de la Parole et du Geste, qui a un propos folklorique, a eu l'initiative en 1931, dans le cadre de l'exposition coloniale, de réaliser 370 faces de disques d'enregistrement de musique de tous les pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, de l'Empire colonial.
Et parmi ceux-ci, vous nous avez amené, alors ça s'appelle Terry Maffi, c'est ça?
Terry Maffi Loatra Nan China, c'est un ensemble de malgaches, donc qui chante, c'est un chant de nostalgie.
Un chant de nostalgie enregistré donc en 1931, au moment de l'exposition.
Par le Musée de la Parole et du Geste, avenue de la Grande Armée, à l'initiative.
Au moment
durant l'exposition.
Donc enregistrement au moment de l'exposition coloniale de ce groupe, donc malgache, oui. Bruno Sebald.
Donc accompagné d'un vaïla, l'instrument. Et j'ai choisi cet enregistrement parce que j'ai un faible pour, et parce que ces disques n'ont pas fait l'objet d'une publication. Par contre, comme les enregistrements étaient réalisés par la firme Pathé, une quinzaine de disques ont été publiés, dont celui-là, donc on pouvait l'acheter.
Oui.
C'était un disque de commerce.
Pendant l'exposition
C'est resté dans les catalogues jusque vers 1934, de Pathé. Et ce n'est que donc quelques années plus tard. Et alors, en 1935, on reçoit du roi Fouad d'Égypte 370 disques réalisés durant le congrès de musicologie du Caire.
Très important,
puisque c'était vraiment une des premières rencontres des cultures arabes. C'était à l'initiative du baron d'Erlanger, grand musicologue de musique arabe. Et participèrent à ce congrès Béla Bartok et Hindemith. Donc, c'est
on n'a pas encore cité Béla Bartok
comme étant
de celui justement qui a été un des pères de l'ethnomusicologie,
C'est fondamental d'évoquer Bartok dans le domaine de la musique ethnologique.
Alors, si on passe de l'autre côté de la Seconde Guerre mondiale et on revient donc à ces années 60 sur lesquelles nous étions jusqu'à il y a peu, vous nous expliquez, Ludovic Tournès, comme je disais tout à l'heure, que le jazz va se métisser avec tout un tas d'autres musiques. On va découvrir par exemple la musique indienne. Et les Indiens vont découvrir aussi le jazz, mais la musique indienne va irriguer à partir des années 60, par l'intermédiaire de Ravi Shankar, mais d'Ali Akbar Khan, par exemple, dès les années 50, eh bien, la musique traditionnelle indienne va parvenir jusque dans les foyers européens, par exemple, et on va découvrir cette musique-là qui était jusqu'alors très peu connue.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement d'abord des séjours de musiciens indiens qui viennent aux États-Unis dans les années 50. Ravi Shankar en est un des exemples, mais il y en a d'autres. Et puis, de l'autre côté, vous avez des musiciens américains puis européens qui vont profondément intégrer les sonorités indiennes à leur univers. Alors, c'est très inégal suivant. Il y a évidemment l'orientalisme assez superficiel.
Ouais, sur lequel on parlait auparavant.
Mais il y en a certains autres qui vraiment font un très, très gros travail. Je pense à quelqu'un comme John McLaughlin, par exemple, qui connaît très, très bien toutes ces musiques-là et qui a vraiment profondément intégré tout ça à son vocabulaire musical.
Lucie Servin, est-ce que l'exemple des disques Vogue montre la volonté comme cela de faire de la variété, c'est-à-dire d'être à la fois sur de la musique classique, sur de la musique traditionnelle ou réarrangée, sur de la variété française, sur du jazz américain, c'est-à-dire d'avoir toujours dans un catalogue différents fers au feu d'une certaine façon en fonction de ce que souhaite le public et des évolutions de ce public, justement, de cette capacité de réception d'autres types de musique que ce qu'il écoute habituellement.
Bah exactement, et ça c'est comme ça que s'est construit Vogue d'ailleurs, via Léon Cabin, via aussi une stratégie commerciale qu'il y a aussi dans le disque.
Oui, il faut pas oublier ça.
Chercher un public, oui. Et de chercher à la fois un public de tube, c'est-à-dire une majorité de gens qui vont écouter une chanson et l'engouement qu'ils vont avoir, mais également ne pas négliger tous les petits publics, toutes les petites niches qui peuvent avoir envie d'écouter tel ou tel disque. Et Vogue va dire d'emblée tout produire. Et notamment, je pense, parce que les gens sont importants, à quelqu'un comme André Clerjat. André Clerjat qui a été un grand personnage de radio, qui est un spécialiste du jazz, qui a écrit un dictionnaire sur le jazz, mais qui était aussi responsable de tous les répertoires de folklore de Vogue, et qui a aussi fait passer des contrats avec les musées d'ethnologie pour réenregistrer et offrir à un public, parce qu'il existait ce public, sur ces enregistrements ethnologiques. Et il a même produit des disques de chants d'oiseaux parce que se diversifie, le public a envie de nouveautés et c'est via cette nouveauté qu'il y a un engouement pour toutes les musiques du monde.
On est un peu surpris effectivement de voir, vous qui avez travaillé à Chants du Monde, André Lischke, la variété justement dans ces années 50, 60, 70, de tous ces enregistrements de musique du monde. Ici dans la maison, on avait évidemment les disques au Cora, en même temps que vous aviez vous-même vos propres collections du côté de Chants du Monde. Et donc d'avoir un public qui se forme l'oreille, qui découvre des sonorités qui ne sont pas les siennes, des sonorités très lointaine, par l'intermédiaire du disque, André Lischke.
Oui, mais je crois qu'aussi cette époque de l'après-guerre, ça a enseigné une nouvelle approche de l'humain, je crois. Mmh. Justement, cet élargissement, justement, comme disait tout à l'heure Philippe Gumplowicz, de connaître l'autre, eh bien, on commençait à le découvrir, enfin, à l'époque des Indes galantes. Et je crois qu'au XXe siècle, il y a une nouvelle façon de redécouvrir, justement, les différentes cultures par le biais du disque.
Donc, et par-delà les clichés aussi, c'est-à-dire, parce qu'on pouvait avoir un certain exotisme de pacotille qui passait dans le film colonial, qui passait dans des films des années 30, par exemple. C'est autre chose, là.
Je crois que c'était justement une approche de l'humain rénovée après la guerre.
Enfin, Bruno Seban.
Non, j'aurais voulu revenir sur ce dont parlait
Ludovic
Tournès au sujet de la musique indienne. Je citerai le cas d'Eben Bhattacharya, mort en 2001, qui pendant plus de 50 ans a couvert le monde pour justement capter les musiques de folklorique et la musique traditionnelle. Donc c'est un Bengali originaire de Benares qui en 1953 part en Angleterre dans le but de voir ce qui se faisait en Europe dans l'enregistrement des ragas, ils se rendent compte que le 78 tour n'est absolument pas adapté à ce propos. Il va s'acheter un magnétophone et il va couvrir le monde, comme je viens de vous dire. Il commencera en 55 par aller à Séville, enregistrer la Semaine Sainte. Puis, il va au Sainte-Marie de la Mer enregistrer un pèlerinage des Gypsies. Et à partir de... En 56, il se fait financer par EMI un voyage qu'il fait d'ouest en est, au retour où, sur son chemin, il collecte des musiques des régions qu'il traverse. Et il fera donc des publications, notamment chez BAM dans les années 60. Il fera une quinzaine de disques. Et son fonds a été remis, de bandes magnétiques de 400 heures a été remis au département de l'audiovisuel en 2003 par sa veuve.
C'est formidable, cette curiosité, parce que ça part de tous les sens, ce qu'on raconte depuis le début de cette émission. Ce sont des Occidentaux qui partent pour pouvoir découvrir l'autre, mais ce sont aussi quelquefois des Bengalis qui vont aller découvrir les musiques occidentales dans les années 50, Philippe Gimpoli.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, effectivement, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a la dimension anthropologique, une dimension humaniste, une dimension ethnologique, et il y a une recherche d'authenticité aussi par ailleurs. Il y a cette idée qu'il y a encore...
Des endroits.
Il y a encore des endroits qui ne sont pas soumis. Alors, parce qu'en pleine mondialisation, il y a plusieurs choses aussi au débordement des échanges qui va tout araser. Et donc, par exemple, pour les États-Unis, puisqu'on parlait de recherche ethnomusicologique, il y a quelqu'un de très important. Bon, il y a plusieurs personnes. Il y a les Lomax dont on a parlé hier.
Ouais,
il y a aussi Maurice H, qui est le créateur de Folkways, distribué par. Marchand du Monde aussi, qui est à la recherche du folklore américain, donc à la fois du blues, des chants blancs et de hobos, de hokies blancs. Et c'est aussi un pont vers Bob Dylan, vers ce que sera la musique folk des années 60.
On termine avec Joao Gilberto, mais un dernier mot, Ludovic Tournès, on voit que c'est un champ absolument énorme qui est abordé par l'histoire aujourd'hui quand on s'intéresse à ce sujet-là. Il y a à peu près 10 sujets de thèse qui ont été mis sur la table en 50 minutes.
Oui, 10, et puis il y en a encore 50 autres potentiels derrière, mais on va peut-être s'arrêter là puisque l'heure tourne. Mais c'est vrai que c'est un très grand sujet de recherche et on attend vraiment les chercheurs sur ces questions-là.
Ne serait-ce que s'intéresser à l'histoire de l'édition phonographique.
Déjà
qui est
Bruno Sebal.
Parce qu'elle est vraiment à la source de ce métissage.
Bah, vous avez déjà une historienne qui s'y intéresse. Elle s'appelle Lucie Servin. On attend avec impatience après son master qui a reçu le prix Métron. Donc, on attend sa thèse. C'est pour dans quelques années tout de même. Il va falloir un petit peu de temps pour terminer votre thèse, Lucie Servin. Merci d'être venue. André Lichke, vous êtes auteur, entre autres, de la musique en Russie depuis 1850 chez Fayard Miraret. Et puis, il faut citer Les résonances de l'ombre, tout de même, de Philippe Gimpelowicz, ici présent. C'est chez Fayard aussi.
Oui.
Et puis, musique du phonographe au MP3, Ludovic Tournès, c'est sorti chez Autrement l'année dernière. Et n'hésitez pas, si vous réécoutez l'émission d'hier, à nous donner quelques tuyaux sur ce que nous avons diffusé. Vous savez qu'on a puisé dans la discothèque de Radio France et on ne sait pas très bien ce qu'on a pris, si ce sont des originaux, des enregistrements rares ou autre chose. Si vous écoutez cette émission, continuez à nous écrire. Vous l'avez fait nombreux hier, sur fabrique@radiofrance.com ou par l'intermédiaire du site ou encore le groupe des amis de la Fabrique de l'Histoire sur un réseau social bien connu. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanne Abolivier et Aurélie Marcet. Ariane Herbet était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.